Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. On va aller dès le début d'Europe Midi à Marseille. On va aller à Douai dans les manifestations, évidemment, contre la réforme des retraites. On va entendre également les messages malveillants envoyés aux députés RN avec les informations d'Alexandre Chauveau. On verra avec Baptiste Morin que plus ça va, plus le gouvernement lâche du lest sur sa réforme des retraites et plus l'intérêt financier de la réforme recule. Les chiffres avec Baptiste. Dans Europe Midi, on sera également avec vous au 39-21. Vous appelez et vous donnez votre avis ou témoignez et posez vos questions aux invités d'Europe Midi qui seront avec nous. Pascal Coton de la CFTC et Benjamin Haddad qui est député Renaissance, le 39-21. C'est le numéro du standard d'Europe Midi. On ira également dans un instant en Turquie où les séismes ont fait au moins 5000 morts des deux côtés de la frontière avec la Syrie. On sera également en direct à midi 20 avec Philippe Besson, responsable des pompiers de l'urgence en partance pour la Turquie. Il va nous expliquer comment il va travailler pour sauver des sinistrés sous les décombres. On reviendra dans Europe Midi sur cette information Europe 1 qu'on vous révélait ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Le nombre de survols de prisons par des drones a explosé l'année dernière. Comment ça s'explique ? William Molinier sera avec nous. La tendance météo, Anissa Haddadi à présent, avec un beau soleil, sauf pour le sud.
Oui, depuis ce matin, le ciel est très encombré dans le sud entre l'Auvergne et le pourtour méditerranéen. Alors ça se calme du côté des Cévennes. Le mauvais temps, il va se localiser cet après-midi vraiment sur les Pyrénées-Orientales qui restent en vigilance orange neige verglas avec des chutes de neige, des averses et beaucoup de nuages jusqu'à la façade atlantique. En Corse aussi, le temps est agité. Partout ailleurs, c'est du grand soleil dans une ambiance bien fraîche.
Anissa Haddadi, merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
1 200 000 manifestants partout en France la semaine dernière. C'est le palier à franchir ou au moins à égaler pour les organisations syndicales. Acte 3 aujourd'hui de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et alors que le texte est examiné depuis hier dans une ambiance survoltée, on va le voir dans l'hémicycle, l'enjeu pour les opposants à la réforme des retraites, c'est de maintenir la pression dans la rue. Plus de 200 rassemblements sont prévus un peu partout en France aujourd'hui. On prend tout d'abord la direction de Marseille, où la manifestation a déjà commencé. Bonjour Stéphane Burgat.
Bonjour à tous.
En direct dans Europe Midi. Stéphane, est-ce qu'on se dirige une nouvelle fois vers une mobilisation massive chez vous ou pas ?
Alors écoutez, il y a du monde hein, encore vraiment pour garnir ce cortège là qui est en train de remonter les quais. Les parkings autour du Vieux-Port sont pleins. La CGT annonce avoir affrété autant de bus que la semaine dernière. Voilà les indicateurs que je peux vous donner pour l'heure à défaut finalement d'une estimation officielle. Mais il y a aussi cette impression, on l'entend, d'un peu moins de monde. C'est ce qu'on nous dit dans les rangs. C'est l'avis de Bernard notamment. Il est chauffeur de bus non syndiqué, il insiste. Et il essaye de mobiliser ce matin encore les non-grévistes. Écoutez.
Moi je suis motivé, hein. Bon, mais on sent que chez nous aussi ça commence un peu à lâcher un peu, mais il y a un peu moins de grévistes. Après c'est à nous de les remobiliser, hein, de faire comprendre qu'il ne faut pas lâcher. Quoi.
Ce que vous faites au quotidien.
Ah ouais. Mais encore avec des collègues, on a discuté là, qui roulaient là, on leur a expliqué. Hein. Bon après c'est toujours le même souci, problème d'argent, voilà, hein, on est là dedans. Hein.
Et c'est pourquoi beaucoup pensent déjà à la suite du mouvement. C'est le cas de Michel, il est employé à la Banque de France et c'est une certitude pour lui, ces défilés, quel que soit leur succès, finalement, ça ne suffira pas.
Je pense que ça va être difficile dans la durée avec des manifestations seulement. C'est pas ça qui fera plier le gouvernement. Manifestation, après tout, ça gêne pas le pays et ça n'a pas grande influence, malheureusement, sur le débat politique. Je pense qu'il faut durcir l'action sans violence, mais il faut, à mon avis, notamment que la jeunesse se mette. Quand la jeunesse était dans la rue, les gouvernements ont toujours reculé.
Voilà, alors quoi qu'il en soit, le premier indicateur qui est attendu ici d'un possible durcissement du mouvement, c'est l'annonce demain soir de la reconduite ou non de la grève dans les raffineries.
Merci beaucoup Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. On en parle beaucoup depuis le début des manifestations contre cette réforme des retraites. Les villes moyennes sont particulièrement mobilisées. Exemple à Douai dans le Nord où vous vous trouvez, Maximilien Carlier. Bonjour Maximilien.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
La semaine dernière, il y avait 5000 personnes dans les rues de cette commune de Douai, commune d'à peu près 40 000 habitants. À vue d'œil, est-ce qu'on est dans ce même ordre de grandeur aujourd'hui ?
Alors non, cortège moins fourni que lors des précédentes journées de mobilisation, c'est ce que m'ont confié plusieurs manifestants. Environ 3 500 personnes présentes ici contre la réforme des retraites, parmi eux Philippe, enseignant.
Alors je trouve qu'il y a un petit peu moins de monde, mais j'ai quand même été surpris par la foule. Parce que même s'il y a un petit peu moins de monde que la dernière fois, il y a quand même encore beaucoup de monde. Les gens restent mobilisés et on sent bien qu'ils sont déterminés.
Déterminés, oui, mais le nerf de la guerre, eh bien, cela reste l'argent. Troisième jour de grève pour Agnès, employée municipale.
Ça me coûte énormément. Je vais perdre à peu près 180 euros. C'est énorme. On mangera des pâtes. On a un petit peu d'argent de côté, ben on s'en servira de ce qui manque. Mais non, je suis prête à continuer. S'il faut en faire 10, j'en ferai 10.
Et ici à Douai, la place d'armes se vide. La plupart des manifestants quittent la ville pour se rendre à Lille. Cet après-midi aura lieu la mobilisation régionale.
Merci beaucoup Maximilien Carlier à Douai pour Europe 1. Voilà, certains manifestent le matin dans une ville moyenne et puis l'après-midi dans une plus grande ville. Certains iront donc à Lille pour ce qui est du nord de la France. En plus des cortèges, des actions sont organisées dans plusieurs secteurs d'activité. La CGT revendique une baisse de production d'électricité chez EDF. C'est l'équivalent de la puissance de 4 réacteurs nucléaires qui a été ôté du réseau. La direction de Total Energy, quant à elle, estime qu'un employé de ces raffineries sur 2 est en grève. Dans les transports en commun, moins de perturbations que mardi dernier. Un TGV sur 2 circule en moyenne à la SNCF, 3 TER sur 10. La situation est en revanche plus compliquée sur les intercités. À la RATP, aucune ligne de métro n'est totalement fermée aujourd'hui. Dans l'éducation nationale, certaines classes restent portes closes. Mais le mouvement est compliqué à mesurer en raison des vacances scolaires. Dans la zone A, notez enfin qu'à Paris, la mobilisation et la manifestation surtout débutera à 14h. Les députés examinent donc depuis hier, en séance, le projet de réforme des retraites. C'est parfois houleux. Il y a des hurlements, des invectives, des suspensions de séances. Et plusieurs députés Rassemblement National crient au scandale. Ils assurent avoir reçu des messages leur indiquant que leurs enfants étaient hospitalisés, ce qui était faux, pour leur faire quitter l'hémicycle. Écoutez par exemple ce message reçu par l'élu de Haute-Marne, Laurence Robert de Haut.
Oui, bonsoir, Madame Robert de Haut, le centre hospitalier André Breton a grandi à l'appareil. Nous appelons car un de nos proches vient d'être admis en urgence à l'hôpital. Si vous pouvez vous rendre sur place, c'est attendu. Vous pouvez nous rappeler évidemment pour plus d'éléments au 03 25 56 83 83.
Voilà, donc c'est un faux message. Il n'y a pas de personne dans l'entourage de cette députée n'est hospitalisée. Extrait recueilli par Maïhélène Trémollet. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain.
Ces manœuvres auraient eu pour objectif de saboter la motion référendaire présentée par le Rassemblement National. Expliquez-nous.
Oui, parce que pour que cette motion puisse être défendue, l'ensemble des signataires doivent être présents au moment de l'appel dans l'hémicycle. Ces appels malveillants, au nombre de 3 selon Marine Le Pen, auraient donc eu pour but d'entraver cette procédure parlementaire. Marine Le Pen a annoncé avoir porté plainte, tout comme les 3 élus du Rassemblement National visés, même si à ce stade le parquet affirme n'avoir rien reçu. Parmi les plaignants, il y a donc Laurence Robert de Haut, que vous venez d'entendre député RN de Haute-Marne interrogé hier soir au micro de Maïhélène Trémollet.
Je suis très inquiète parce que j'ai des enfants et des petits-enfants, donc je me pose la question qui est hospitalisé. C'est absolument scandaleux, ignoble, s'en prendre à des personnes en parlant de drames comme cela, c'est absolument scandaleux.
Alors Marine Le Pen explique que c'est la même voix sur les 3 messages vocaux et donc, selon elle, la même personne qui a contacté les membres de son groupe. La présidente du groupe RN à l'Assemblée espère que les enquêteurs sauront retrouver son identité. Un climat délétère qui ne touche pas seulement le RN puisque Fadila Khattabi, la présidente Renaissance de la Commission des Affaires Sociales, indique avoir reçu une lettre à son domicile contenant des menaces de mort à l'égard de sa famille ainsi que de la poudre blanche.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Et avant même l'entame des débats, le gouvernement a dû lâcher du lest pour espérer obtenir une majorité des voix autour de sa réforme des retraites. Dernier exemple en date, la possibilité pour les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans de bénéficier du dispositif carrière longue. On va en parler avec les invités d'Europe Midi, avec vous dans un instant. Alors ça, c'était pour plaire à un maximum de députés Les Républicains, pour qu'ils votent la réforme. Mais ce n'est pas la seule concession accordée aux oppositions. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Et à force de laisser filer les milliards, c'est l'ambition majeure de cette réforme, le retour à l'équilibre financier, qui risque d'être remis en cause. Expliquez-nous.
Oui, prenons la calculette. Repousser l'âge de départ à 64 ans et accélérer l'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans, ça doit rapporter 17,7 milliards d'euros en 2030, de quoi combler assez largement le déficit estimé alors à 13,5 milliards, avec une marge de plus de 4 milliards d'euros. Sauf qu'il faudra financer le volet social de la réforme, gonflé par les concessions. Il y a les départs anticipés pour invalidité ou inaptitude, ceux pour carrière longue, et puis la retraite minimale à 1200 euros pour les futurs retraités, mais aussi pour les retraités actuels. Au bout du compte, quelques 6 milliards d'euros de dépenses, auxquels il faut maintenant ajouter donc cet élargissement des carrières longues à ceux qui ont commencé avant 21 ans, 1 milliard d'euros environ. De plus, résultat, la réforme coûterait en l'état environ 1,5 milliard d'euros. Elle coûterait de l'argent public. Alors l'exécutif multiplie les pistes de financement. Augmenter les cotisations vieillesse des employeurs, celles des collectivités locales et des hôpitaux, ou encore celles des employeurs, mais cette fois-ci, sur les ruptures conventionnelles. Le problème, c'est qu'on parle là de pistes de microfinancement, surtout que tout ça repose sur l'hypothèse d'un chômage à 4,5%. S'il reste à 7,5% comme aujourd'hui, alors le déficit de notre système se creuserait de plus de 6 milliards d'euros.
Baptiste, si je vous suis, à ce jour, la réforme coûte de l'argent ?
Coûte, oui. 1,5 milliard d'euros environ, en attendant les pistes de financement qui sont débattues à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup Baptiste Morin. Il est midi 12 dans Europe Midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La barre des 5000 morts est franchie en Turquie et en Syrie après les violents séismes qui ont eu lieu hier. Mais le bilan n'est malheureusement que provisoire. Les recherches se poursuivent dans les décombres des milliers d'immeubles effondrés. D'autant que le froid s'est installé sur les zones sinistrées. C'est donc une course contre la montre qui se joue en ce moment. Caroline Baudret avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour Romain. Oui, pour sauver chaque vie qui pourrait l'être, cet homme a survécu au séisme à Antioche. Il témoignait au micro du correspondant d'Europe 1 en Turquie, Rémi Trio.
Je suis resté bloqué pendant 9 ou 10 heures sous les décombres. Beaucoup de gravats étaient tombés sur moi. Quelqu'un essayait de me dégager par au-dessus et moi je poussais par en dessous. Il a d'abord sauvé ma femme, puis il est revenu me chercher. Que Dieu vienne en aide à tous ces gens ici. On était avec eux en dessous. Certains y sont toujours, c'est terrible, j'en souffre.
Adieu. De l'autre côté de la frontière, dans le nord de la Syrie, la ville de Janderis, par exemple, 13 000 habitants, est dévastée. Les habitants, comme Ali, tentent de retirer parfois à main nue les corps des débris.
Toute ma famille est là-dessous. Mes fils, ma fille, mon gendre, ils sont tous sous les décombres. Il n'y a personne pour les aider, pas de machine, rien. On entend leur voix, on le sait qu'ils sont toujours en vie, mais il n'y a aucun moyen de les faire sortir. Il n'y a personne pour les sauver. Nous appelons chaque pays, nous appelons l'humanité, aidez-nous. Nous avons été frappés par une catastrophe.
Ici, les hôpitaux sont saturés. Les blessés sont donc traités en pleine rue ou dans des voitures de particuliers. L'aide internationale devrait arriver aujourd'hui en Turquie et en Syrie. 23 millions de personnes ont été potentiellement exposées aux secousses, selon l'OMS. L'organisation redoute un bilan humain 8 fois plus élevé que les premiers chiffres annoncés.
Ces appels à l'aide sont glaçants. Merci beaucoup, Caroline Baudry. La communauté internationale est largement mobilisée pour aider les Turcs et les Syriens. 139 secouristes de la sécurité civile française sont en route pour les régions dévastées. Dans un instant, on sera en direct avec Philippe Besson, responsable des pompiers de l'urgence internationale. Il sera en direct de l'aéroport de Charles de Gaulle avant son départ pour la Turquie. Il va nous expliquer sa mission et comment il travaille très, très concrètement. Midi 14, restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 16. Écoutez bien, des prisons survolées par des drones, un phénomène orchestré par les détenus et qui inquiète, on l'imagine, l'administration pénitentiaire. Selon les informations d'Europe 1, les autorités ont enregistré une hausse de 85% de ce type de faits l'année dernière. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain.
Service police-justice d'Europe 1. À quoi ces survols de drones peuvent-ils servir ?
Eh bien, ils remplacent petit à petit les traditionnels parachutages, comme on les appelle. Ces paquets jetés depuis l'extérieur, puis ramassés par les prisonniers lors de leur promenade. L'avantage du drone, c'est qu'il passe au-dessus des filets de sécurité. Il est discret et manœuvrable, loin du regard des sentinelles positionnées sur le chemin de ronde. Ce mode opératoire s'est accéléré depuis le confinement. Samedi dernier, un homme de 24 ans a été interpellé aux abords de la prison de Neuvic en Dordogne. Il pilotait un drone qui transportait un colis avec 8 téléphones portables, du cannabis et une cartouche de cigarette. L'été dernier, à la prison de Sequedin dans le Nord, les détenus pouvaient même commander à distance depuis leur cellule sur l'application Snapchat leur prochaine livraison. Selon nos informations, 68 cas de survol ont été enregistrés en 2022 contre 37 en 2021. Parmi eux, il y a donc ces fameuses livraisons, mais aussi des suspicions de survol pour des repérages avant d'éventuelles évasions. Et pour faire face à ces objets volants, l'administration pénitentiaire a investi il y a un an dans du matériel de détection et de brouillage. Mais aujourd'hui, sur les 187 centres de détention de l'Hexagone, seule une quinzaine est dotée de ce type d'outils.
C'est inquiétant.
Inquiétant, et ça inquiète. Ça fait, l'administration pénitentiaire, effectivement, est face à un vrai sujet.
Merci beaucoup, William Molinier. Midi 18. Allez, on change totalement de sujet. On part s'oxygéner, j'allais dire, direction Courchevel-Méribel. C'est là-bas que se déroulent les championnats du monde de ski alpin, entrée en lice aujourd'hui des catégories masculines. Cyril de la Morinerie avec nous. Bonjour Cyril.
Bonjour Romain, et vous avez raison, on prend l'air ici.
Ah oui,
je vous envoie du bon air jusqu'à Paris.
Ah, c'est sympa. Vous suivez la compétition pour Europe 1, bien sûr. L'une des meilleures chances françaises de médaille s'était lancée ce matin. C'est le géant Alexis Peintureau.
Oui, il a été poussé par le public du haut de la piste. Le français de 31 ans a dû entendre cette clameur monter. Le skieur de Courchevel s'est donc élancé plein de confiance, dévalant la pente avec énergie, prenant des risques avec une vitesse à plus de 100 km/h sur cette piste qu'il connaît par cœur, avant d'arriver sur le redoutable mur des Braves, accueilli par son public avec le meilleur temps de la première manche du combiné, donc en Super G, épreuve de vitesse 1.08.25 pour être précis. Alexis Peintureau salue ses supporters, le skieur de Courchevel, ski à la main, arrive au micro Europe 1 avec le sourire.
Il fallait vraiment prendre des risques, qui est vers le bas le plus possible, pas faire trop de chemin, mais en même temps rester du bon côté de la limite, parce que sinon la faute était assez facile à faire. Et donc je pense qu'on est 3 athlètes à avoir réussi ça, et ce qui explique du coup nos bons temps, et maintenant il reste la deuxième manche pour pouvoir s'amuser, quoi, je dirais.
Et cet après-midi à 14h30 à Courchevel, avec le soleil, Alexis Peintureau s'élancera pour le slalom. Au classement général, le Français devance de 6 centièmes le champion du monde en titre de la discipline, l'Autrichien Marco Schwartz. Tout est possible, Peintu champion du monde en 2019 du combiné, espère ne pas vivre la même mésaventure qu'aux Jeux Olympiques en Chine, où il avait chuté et terminé l'Olympiade diminuée.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Vous êtes chanceux, vous avez de la chance d'être à...
Ah oui, mais ça, et absolument. Et ça, je mesure ma chance. C'est extraordinaire de suivre ces compétitions pour Europe 1.
Merci beaucoup Cyril. Didier Hamot est avec nous dans le studio. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Bon, qu'est-ce que ça donne à Paris, Didier Hamot de boursier.com, le CAC ?
C'est moins aéré, le CAC 40 est stable, il ne se passe pas grand-chose. 7143 points en attendant les nouvelles annonces des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale américaine, avec un nouveau discours de son patron ce soir, Jérôme Powell, qui est très bavard en ce moment. En Bourse de Paris, après ses résultats, BNP Paribas monte quand même de 2%, 62 euros, aidé par un plan de rachat d'actions de 5 milliards d'euros. Ailleurs en Europe, c'est très hésitant. Francfort est stable, Bruxelles moins 0,1%, Madrid plus 0,2%, le CAC 40 donc inchangé, 7143 points.
Didier Hamot de boursier.com, merci beaucoup Didier. La météo, Anissa Dadi, le temps est agité dans le sud-ouest.
Oui, en particulier sur les Pyrénées-Orientales, où on a encore ce département vigilance orange neige-verglas. Des chutes de neige sont encore attendues cet après-midi, elles vont même s'accentuer, elles vont se renforcer cet après-midi, ces chutes de neige à partir de 500 mètres d'altitude. Vous allez voir les sols blanchir aussi en pleine, dès 200 mètres, il y aura des flocons. Des averses localement fortes sur les Pyrénées-Orientales jusqu'au Languedoc-Roussillon, des nuages sur toute la chaîne pyrénéenne qui remontent jusque dans les Landes où là le temps est un petit peu plus calme avec un léger risque d'averse. Partout ailleurs, c'est du grand soleil, sauf en Corse où le temps est un petit peu moins agité que ce matin. Mais enfin, on va retrouver quand même des passages nuageux fréquents, des averses et du vent jusqu'à 70 km/h. Le vent souffle aussi en bord de Méditerranée. journée, les températures 4 à Belfort, 6 degrés à Paris, Saint-Etienne, Lille et Metz, 8 degrés à Lyon, Brest et Quimper, 10 cet après-midi pour Limoges, 12 à Nice et Marseille et 13 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on sera en direct avec Philippe Besson, pompier en partance pour la Turquie. Il va aider les sinistrés des séismes. Et puis on parle des retraites juste après. On sera avec Benjamin Haddad, député Renaissance, et Pascal Coton de la CFTC. Et avec vous au 3921, vous pouvez d'ores et déjà appeler le standard d'Europe Midi pour poser vos questions et apporter vos commentaires. C'est important. À tout de suite.